Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec, dans un instant, bien sûr, toute l'info, le journal de Christophe Lamarre. À 19h10, Éric-Emmanuel Schmitt viendra nous livrer sa carte blanche. On parlera du bac philo. Et puis à partir de 19h20, attention, montez le son, Coluche sera avec nous pendant 40 minutes.
Alors, dites donc, c'est une émission à faire, maintenant ça s'appelle On est pas là pour se faire engueuler, puis c'est vrai.
Voilà, c'est vrai, Coluche et Europe 1, l'histoire folle d'un mec qui n'avait jamais fait de radio mais qui a révolutionné le genre. On sera avec ceux qui l'ont côtoyé à l'époque. Maryse, bien sûr, indissociable. Laurent Cabrol, son collègue de bureau, son pote surtout, Jean-Michel Vagelzi, le complice de toujours, et François Jost, le monsieur radio qui nous expliquera à quel point cette histoire entre Coluche et Europe 1 a été intense. Aujourd'hui encore, je peux vous dire que c'est une sacrée fierté de travailler dans la radio de Coluche. Ça, c'est pour tout à l'heure. D'abord, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 19h.
C'est une équipe très combative, généreuse, très bien organisée. Je m'attends à avoir le même répondant qu'ils ont eu face aux Portugais.
Il est prudent, Didier Deschamps, à 24 heures d'affronter la Hongrie demain à Budapest. Les Bleus ont déjà pris la température sur place. Il fera chaud, c'est certain.
Ils étaient en première ligne pendant le confinement. Les livreurs de plateformes manifestaient aujourd'hui à Paris. Ils sont victimes d'insultes racistes et d'agressions.
Le mari de Delphine Jubilard mis en examen pour meurtre aggravé. 6 mois après sa disparition, on ne sait toujours pas ce qu'est devenue l'infirmière, ni même si elle est encore en vie.
L'appel des pédiatres en faveur des écoliers du primaire. Laissez-les retirer le masque en classe.
Les élections régionales en PACA, le Rassemblement national toujours donné en tête dans les sondages, mais la droite ne s'avoue pas vaincue.
HSBC France passe sous contrôle d'un fonds d'investissement. La banque sino-britannique a payé pour se défaire de son réseau. Explication dans ce journal.
Et puis, l'Euro football, voilà, la météo.
Avec Yanis Haddadi, c'est la fin de l'accalmie.
Elle était de courte durée, hein, cette accalmie, Isabelle. Oui, nous aurons demain une journée très orageuse sur l'ensemble du pays. Les orages arrivent de nouveau par l'ouest. Ils seront par endroits violents. Je vous en dis plus à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Voilà, j'étais impatient, mais il va falloir attendre encore 24 heures. On saura demain vers 16h45 si l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Les Bleus affronteront la Hongrie chez elle à Budapest.
Et même si les champions sont favoris, jouer les Hongrois à domicile ne s'annonce pas forcément comme une partie de plaisir. Hein. Jean-François Pérez, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Budapest.
C'est dans la fournaise du milieu de l'après-midi, alors que la température dépassait allègrement les 30 degrés au soleil, que les Bleus ont découvert le stade Ferenc Puskás. La seule enceinte construite spécialement pour cet Euro et la seule dont la jauge n'est pas réduite. Ils seront demain 63 000 Hongrois contre 4 000 Français. Didier Deschamps s'attend à une très grosse ambiance.
L'appui du stade de plein et du public est quelque chose d'important et un avantage pour cette équipe hongroise. Ça les a bien aidés sur le premier match contre le Portugal. C'est une équipe très combative, généreuse, très bien organisée. Je m'attends à avoir le même répondant qu'ils ont eu face aux Portugais.
En grande conversation avec Paul Pogba, le sélectionneur a, semble-t-il, tranché. Peu de changements en vue, comme on aurait pu l'imaginer, à cause de la chaleur et de la supposée faiblesse de l'adversaire. Le 11 vainqueur en Allemagne devrait être reconduit à une ou deux exceptions près. « Je ne prépare pas le deuxième match en pensant au troisième », assure Deschamps, persuadé que le duel de demain face à des Hongrois condamnés à l'exploit ne sera pas une partie de plaisir. Budapest, Jean-François Pérez, Europe 1.
France-Hongrie, ou plutôt exactement Hongrie-France, demain à 15h, à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Deux matchs sont au programme aujourd'hui. C'est le début de la deuxième période entre la Croatie et la République tchèque, et ce sont les Tchèques qui mènent 1-0. Et puis ce soir, l'Angleterre affrontera l'Écosse à 21h.
Dans l'actualité également, Christophe, l'avocat de Cédric Jubillar, qui est en colère après la mise en examen de son client dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar.
Mise en examen pour meurtre aggravé. Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Son avocat estime que le dossier d'instruction est truffé d'incohérences et fait remarquer que l'on ne sait toujours rien des causes du décès ni de sa réalité.
Mais pour le procureur de la République, Dominique Alzéari, il y a un certain nombre de détails troublants, notamment cette machine à laver qui tourne lorsque les gendarmes arrivent le soir de la disparition de son épouse.
Ce qui a été relevé aussi, c'est que lorsque les gendarmes arrivent, vers donc 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Mme Jubilard. Ceci se passe de manière, dans un contexte, vous en conviendrez, assez incongru, puisqu'elle a disparu, et ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, d'autant plus que, je suis désolé de le dire, mais que ça se situe dans une habitation dont l'état d'entretien est extrêmement négligé, et on ne voit pas l'intérêt, puisque M. Jubilard lui-même et dans un pyjama, est vêtu d'un pyjama dont il explique qu'il ne l'a jamais lavé. Et là, ce soir-là, expliquant que ce seraient peut-être les chiens qui auraient sali cet édredon, donc il était en train de le laver. Ce qui, à 4h50 du matin, n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque votre femme a disparu.
Le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari, il était au micro Europe 1 de Benjamin Peter. Europe 1, 19h05, vous savez que le port du masque n'est plus obligatoire depuis 2 jours, y compris dans les cours d'école, mais les pédiatres réclament sa fin pure et simple.
Il réclame la fin du masque obligatoire, c'est ça, non seulement à la récréation, mais aussi dans les salles de classe pour les élèves du primaire. Le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie.
Je ne dirais pas que c'est une ineptie, c'est simplement les différentes recommandations internationales font que quand la circulation virale est faible, comme c'est le cas actuellement, l'intérêt du port du masque des enfants dans les petites classes, c'est-à-dire entre le CP et grosso modo le CM2, est probablement complètement inutile. On avait accepté le port du masque quand nous étions en phase de croissance de l'épidémie et quand l'incidence de la maladie était élevée. Aujourd'hui, elle n'est plus utile. Alors, c'est important, on peut se dire, pour quelques jours, quel est l'intérêt de s'arrêter. Mais, derrière, il va y avoir des colonies de vacances et il va falloir pas qu'on continue à proposer qu'ils portent le masque en permanence en colonie de vacances quand ils sont à l'intérieur. Et deuxièmement, il va y avoir la rentrée. Et on peut penser qu'à la rentrée scolaire, comme l'année dernière, la circulation virale sera faible. Et à ce moment-là, rentrer avec le port du masque dans cette tranche d'âge-là n'a pas beaucoup d'intérêt.
Le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie, avec Louis de Ragnel.
En Russie, le variant Delta continue d'inquiéter les autorités sanitaires. À Moscou, il représente aujourd'hui 90% des nouveaux cas, 9000 infections en 24 heures dans la capitale russe, qui ferme les fan zones de l'euro et interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes.
Ils étaient en première ligne pendant le confinement. Les livreurs de plateformes se sentent aujourd'hui abandonnés.
Et même méprisés par les clients et les restaurateurs, ils dénoncent les insultes parfois racistes et les agressions. S'ils ont fait le dos rond jusqu'à présent, Yasmina Katou, cette fois, ils ont dit stop. Ils ont manifesté place de la République.
Oui, une cinquantaine de coursiers se sont rassemblés place de la République. Ils réclamaient notamment d'être mieux payés, mais surtout une revalorisation de leur profession. Érigé en héros pendant le confinement, Ernest regrette une dévalorisation de son métier depuis le déconfinement.
Pendant le confinement, nous avons été au charbon. On s'est confronté face aux maladies, face aux citoyens et on a rendu énormément de services. Nous ne sommes pas des esclaves. Pas plus tard qu'hier soir, je me suis disputé avec le gérant parce que tout simplement, il n'avait pas de respect pour mon métier. On demande plus de considération.
De la considération et plus de sécurité en seulement 10 jours. 3 livreurs ont été victimes d'agressions racistes. Uber Eats doit mettre en place un bouton d'alerte cet été. Il permettra de signaler une insulte ou une agression via la plateforme. Les données GPS seront ensuite transmises aux forces de l'ordre. Ce n'est pas assez, dit Jérôme Pimaud du collectif des livreurs parisiens autonomes de plateforme. Il souhaite créer un groupe d'alerte entre livreurs.
L'idée, voilà, c'est via un groupe Telegram de pouvoir avoir quelque chose de très très immédiat. Il envoie une alerte, voilà, j'ai un problème avec un client, avec une cliente, avec un restaurateur, il m'a manqué de respect. Et puis les gars, ils arrivent en soutien en fait pour faire comprendre à l'agresseur que ben, le livreur n'est pas tout seul.
Une nouvelle manifestation est prévue le 18 juillet prochain, place de la République.
Yasmina Katou.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, avec une banque qui paye pour se défaire de son réseau. HSBC se sépare de ses agences en France.
Et puis les élections régionales, les petites listes n'ont pas dit leur dernier mot.
A tout de suite. Europe 1, 19h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. Et les agences bancaires HSBC de France changent de main. Christophe, c'est le fonds d'investissement américain Cerberus qui va les reprendre.
L'opération vient d'être officiellement annoncée. Emmanuel Dutheil, Cerberus ne va pas payer pour acheter le réseau de plus de 240 agences. Non, c'est HSBC qui va signer un énorme chèque pour se séparer de sa division.
L'idée est assez simple. Les agences bancaires de HSBC, qui représentent 800 000 clients et près de 4 000 collaborateurs, ne gagnent pas d'argent. C'est même une activité très déficitaire. Et donc, pour se séparer de cette division, le géant sino-britannique préfère payer 1,6 milliard d'euros plutôt que d'essuyer année après année des pertes. Le groupe n'avait pas trop le choix en plus, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour racheter cette activité. C'est un chèque sans précédent en France dans l'histoire d'un actif bancaire. C'est le signe que les agences n'ont plus la cote, la fréquentation s'est effondrée et ça s'est encore accéléré avec le Covid. Même si le cas de HSBC est particulier, c'est un petit réseau. toutes les grandes banques ferment par centaines des agences, étant avec difficulté de trouver le modèle de demain.
Les explications d'Emmanuel Dutheil, chef du service Éco d'Europe 1. La campagne maintenant pour les régionales, on est à deux jours du premier tour et certains candidats donnés, battus d'avance par les sondages, veulent déjouer les pronostics.
Oui, et surtout s'assurer une place au second tour à condition de recueillir au moins 10% des suffrages. C'est le cas de la liste Debout la France en PACA. La tête de liste Noël Chuisano compte bien peser sur cette élection.
Pour nous, c'est simple. Donc, nous sommes engagés. Donc, nous avons une liste de personnes de la société civile, pas d'élus déjà du conseil régional. Et notre objectif, c'était de présenter une cohérence, on va dire, politique, économique pour la région. Et donc, nous portons les valeurs du RPR, je vais dire, des années 90, Pasqua, Seguin, humanisme, social, voilà, c'est ces valeurs qui, pour moi, sont toujours essentielles dans la constitution de notre équipe. Mes colistiers partagent les mêmes valeurs et j'en constate que les Républicains ont perdu ces valeurs d'origine. Quoi.
Noël Chuisano, tête de liste de Debout la France en région PACA. Il était au micro d'Alexis de la Fontaine.
Et ces élections régionales, ce premier tour, vous pourrez suivre les résultats en direct sur Europe 1 dimanche dès 19h30 en compagnie de Wendy Bouchard, de toute la rédaction du service politique des Grandes Voix et des invités. Évidemment, rendez-vous donc dimanche 19h30 sur Europe 1.
Allez, un dernier mot de l'Euro, Croatie, République tchèque. En ce moment, on est en deuxième période, 9-4 minutes de jouer déjà et un partout entre la Croatie et la République tchèque. Un rappel ce soir, l'Angleterre dans ce groupe D affrontera l'Écosse à 21h.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup à vous, Christophe. La météo, on vous retrouve à Nissa Adadi et le temps redevient instable demain.
Oui Isabelle, avec dès le début de la journée, tout le long de la façade atlantique, des averses et un ciel très couvert. Partout ailleurs, la matinée est ensoleillée, avec tout de même sur l'Hérault un risque d'orage qu'on va surveiller de près. Et puis dans l'après-midi, les orages qui concernaient la façade atlantique vont vraiment s'engouffrer dans le pays. À l'ouest, le temps devient très orageux avec un risque de fortes pluies, en particulier dans le nord-ouest et sur les pays de la Loire. On va surveiller aussi ce qui se passe du côté de la Gironde et du Limousin, où là aussi les orages devraient être violents. À l'est, de l'Alsace à la Provence, toujours une belle journée estivale, du soleil et surtout des fortes chaleurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le département du Rhône est toujours lui placé en vigilance orange canicule. Dans la matinée, les températures sont plus fraîches, donc 11 degrés à Saint-Brieuc, 16 à Paris, 18 à Nevers, 21 degrés à Strasbourg. Dans l'après-midi, toujours de la fraîcheur à l'ouest, 17 à Cherbourg, 22 à Rennes, 23 à Biarritz. Ailleurs, il fait chaud, 28 à Paris, 31 degrés à Marseille, 33 à Lyon et 34 pour Grenoble ou encore Strasbourg.
Mais on va quand même pouvoir mieux dormir puisque les nuits sont plus fraîches et ça c'est une très bonne nouvelle.
On va aérer, ouais.
Merci Yannis, on vous souhaite un très bon week-end.
Bon week-end.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Dans un instant, votre grand débat sur Europe 1. Installez-vous confortablement, surtout ce soir, on va s'amuser. Coluche et ses comparses sont avec moi dans un tout petit instant. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric Emmanuel.
Bonsoir Isabelle.
Alors vous voulez partager avec nous un coup de cœur, celui que vous éprouvez pour l'épreuve de philosophie du bac.
Une merveille a eu lieu cette semaine, l'épreuve de philosophie du bac. Alors soyons clairs Isabelle, je n'éprouve aucune nostalgie et n'ai pas du tout envie de repasser mon bac. Il m'arrive d'ailleurs régulièrement en rêve de paniquer en subissant l'épreuve de mathématiques, comme quoi mes cauchemars n'ont toujours pas compris mon âge actuel. Je voudrais cependant avec vous me réjouir que cette épreuve existe, et mieux même, je voudrais d'abord m'en étonner.
Vous en étonnez, comment ça?
Ah oui, souvenez-vous Isabelle, Platon, le grand penseur grec, affirme que la première qualité du philosophe est l'étonnement. On commence à philosopher lorsqu'on considère que les choses ne vont pas de soi. On prend de la distance, on marque sa surprise, on se demande comment, pourquoi. S'étonner constitue le premier acte philosophique. Vous voyez donc que je deviens philosophe en m'étonnant du bac de philosophie. Une telle épreuve n'existe pas dans tous les pays.
Oui, par exemple, on ne pratique pas la philosophie dans les dictatures.
Ah non. Mais sans aller jusqu'aux dictatures ou aux régimes totalitaires, on doit relever que beaucoup de vraies et de belles démocraties ne demandent pas une telle épreuve.
Et pourquoi ?
Ah, les dictateurs ont peur de la philosophie, de la liberté de penser, de l'incitation à penser par soi-même. Mais les démocraties, elles, n'ont pas peur de cela. En revanche, certaines craignent de juger les individus sur une épreuve qui fait davantage appel à l'intelligence qu'aux connaissances. Comme disait Kant, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Une épreuve de philosophie teste une capacité de réflexion, pas l'acquisition d'un savoir. On est donc aux antipodes du QCM. Prenez par exemple les sujets de cette année.
Alors justement, voici le premier de ces sujets, Éric Emmanuel. Discuter, est-ce renoncer à la violence ?
Eh bien, voilà un sujet non scolaire, sans cours à recracher. L'étudiant est obligé de se poser vraiment la question. Et cette question, elle est intemporelle, car générale, et profondément actuelle. Récemment, un homme a giflé le président de la République. Une discussion aurait-elle empêché cette gifle ? Pas forcément. Une discussion peut être violente. Et d'autre part, l'emploi de la violence n'est pas toujours illégitime. Les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, l'armée, sont censées exercer une violence légitime au nom des citoyens. Il n'y a pas de réponse simple, unique, mais un chemin à parcourir pour la pensée. Ce que l'examinateur va noter ne sera pas une réponse, mais la capacité d'en élaborer une.
Bien, on passe au deuxième sujet. L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?
Alors là, le sujet se révèle plus scolaire. Il demande la connaissance de Descartes et de Freud. Et les examinateurs l'ont fait exprès, très judicieusement. Certains étudiants peuvent ainsi montrer qu'ils ont appris et qu'ils réfléchissent avec les savoirs acquis.
En effet, et enfin le troisième sujet, sommes-nous responsables de l'avenir ?
Ah ben là j'exulte Isabelle, voilà une question qui sous-tend toutes nos actions, tous nos comportements, tous nos choix politiques. Il n'y a pas de bonne réponse, mais une bonne façon de répondre en considérant les tenants et les aboutissants.
À vous entendre, la question compte plus en fait que la réponse.
Oui. Rassembler les hommes autour des questions, voilà le projet humaniste de la philosophie. Nous nous posons tous les mêmes questions, même si nous y répondons de façon différente. Les questions nous unissent, les réponses nous particularisent, nous séparent, voire nous opposent. Ce qui est grave, c'est d'avoir oublié la question, ce que font les intégristes, les terroristes, ceux qui croient savoir. Bref, cette semaine, l'éducation nationale, en posant 3 questions aux jeunes esprits de France, a vraiment fait quelque chose pour l'humanité et je tenais à l'en féliciter.
Bien, merci. Merci à vous. C'était très intéressant en tout cas. C'était la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci Éric Emmanuel.
Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, quand Coluche bousculait la radio, 40 ans plus tard, ses amis s'installent à mes côtés dans ce studio. À tout de suite. On va vous raconter ce soir l'histoire d'une rencontre. La rencontre entre un mec généreux et impertinent et un micro. Bleu, le micro. C'était il y a plus de 40 ans, mais ici on a l'impression que c'était hier parce que Coluche, il est encore là avec nous tous les jours à Europe numéro 1. Il est là dans les souvenirs de ceux qui l'ont côtoyé. Il est là dans le studio qui porte encore son nom. Il est là dans le cœur des nouveaux aussi parce que oui, oui, ça a de la gueule de bosser dans la radio de Coluche. À la veille du 35e anniversaire de sa mort, on avait envie de remonter le temps ce soir, de se souvenir qu'un jour un mec a pulvérisé les codes de la radio parce qu'on a la chance de pouvoir la raconter, cette histoire intime, parce que les témoins de cette histoire sont pour certains encore à Europe 1, comme vous Laurent Cabrol. Bonsoir Laurent.
Bonjour ma poule.
Vous en avez vécu des choses avec Coluche. Ouais,
c'est ce qu'aurait dit Michel, il aurait dit
je
bonjour
bien,
ma poule.
Je sais bien, je sais bien. Avec nous également quelqu'un qui a accompagné Coluche pendant de longues années. Bonsoir Jean-Michel Vagelsi.
Bonsoir.
Vous avez été notamment le secrétaire de Coluche, ancien président des Restos du Cœur. Cette rencontre entre Coluche et Europe 1, vous allez aussi nous en parler. Maryse Gildas est également en ligne avec nous, évidemment, depuis la Corse, je crois. Bonsoir Maryse.
Oui, je suis en Corse, sinon j'aurais été avec plaisir avec vous.
Et ça nous aurait fait plaisir. Vous aussi,
eh bien,
vous en avez
écoutez,
partagé.
Bonsoir hein. Ma poule, hein, parce que c'était comme ça qu'il nous appelait. Voilà.
Vous aussi, Maryse, vous
bonsoir,
avez partagé cette folle aventure radiophonique de Coluche. Jean-Michel Vagelsi, oui. Vous salue. Et également à mes côtés, François Jost, qui est incollable sur la radio. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes sémiologue et fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques. Et spécialiste des médias. Merci,
et j'ai vu Coluche très très tôt quand même, ouais. En spectacle.
Oui, c'est ça, vous l'avez vu au théâtre, c'est
oui,
ça
oui.
Merci à tous les quatre de m'accompagner ce soir. Alors, 24 avril 1978, c'est une date importante dans l'histoire d'Europe 1. Coluche déboule rue François 1er. Il s'empare du micro bleu et ça va faire du bruit avec son émission « On n'est pas là pour se faire engueuler », titre tiré de la chanson de Boris Vian. C'était tous les jours sur Europe numéro 1 de 15h30 à 17h.
On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé.
Et tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République.
Laissez-nous donc qu'on le regarde.
Ce jour-là, quand Coluche s'empare donc du micro pour la première fois, c'est une sacrée révolution. Jean-Michel Vagelsi, vous vous en souvenez de cette première émission, j'imagine. C'était comment ?
Je m'en souviens, mais j'étais au théâtre à l'époque. Oui. À l'époque, j'étais régisseur. Et c'était un événement, parce qu'on l'écoutait avant d'aller au théâtre du gymnase où il jouait le soir. C'était avec Gérard Lanvin et Jean-Jean. Donc, ils étaient tous les trois. Et ça a été, je me souviens, un gros événement. Mais bon, comme le soir, on avait théâtre, si vous voulez, c'était pas l'événement central. Après, le soir, c'était au gymnase que ça se passait.
Laurent Cabrol, parlez-nous de cette émission. On peut le dire, c'était un sacré bordel quand même au départ, non ?
Bah, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes, donc il y a déjà une trentaine ou quarantaine d'années. Europe 1, c'est pas comme toutes les radios. Nous, on est en avance, on est quand même une radio relativement décontractée, etc., par rapport à France Inter, par rapport à RTL même. On est quand même une radio en pointe. Et vous avez quelqu'un qui arrive, vous avez une rédaction qui est au premier étage, la rédaction d'Europe 1, des mecs galonnés, vous voyez le genre, un peu, qui voient les ministres, etc. Qui ont
des journalistes
langage,
sérieux.
Un langage bien châtié. Et puis au second étage, vous avez les programmes. Et là, vous avez Coluche qui arrive. Et il met d'un seul coup, il fait exploser la maison. C'est-à-dire que les gens du premier, les journalistes, se disent « Mais quel est ce garçon ? Quel est ce mec qui vient foutre le bordel dans notre rédaction ? qui vient casser l'image d'Europe 1 ? Nous, on est une radio sérieuse. Et il vient parler de poule, de bite, d'enfoiré. Enfin, tous les mots sortent, des mots qui ne sont jamais sortis à la radio. » Alors qu'aujourd'hui, sur toutes les radios FM, il n'y a que ça. Et là, d'un seul coup, c'est une révolution interne. Et Maryse l'a vécu aussi. Et bien avant moi.
Oui, je suis là. Oui, absolument. Laurent,
c'était un événement, Coluche qui arrivait à Europe 1, ça a tout bousculé.
Ah, ça a tout bousculé, bien sûr. Et ça faisait du bien, mais tellement de bien. On disait pas merde à la radio à l'époque. Avec lui, ça a commencé, quoi.
Et ça fait tellement plaisir de pouvoir dire merde parfois.
Oui, ça fait du bien quelquefois.
C'était du grand n'importe quoi quand même. Lui-même, à plusieurs reprises, il disait dans ses émissions « on patauge ». Je voudrais qu'on réécoute ses tout premiers mots. Hein. C'est la première fois qu'il prend l'antenne sur Europe numéro 1.
Pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. Salut, bonjour monsieur, dame. C'est Coluche ici avec ses camarades Gérard et Jean-Jean. Bonjour. Et puis Robert Villard qui nous vendra un petit peu de choses comme ça de temps en temps. Alors, dites donc, c'est une émission à faire, maintenant ça s'appelle « On n'est pas là pour se faire engueuler », puis c'est vrai. C'est-à-dire que on est là pour faire, on dit des conneries, des trucs comme ça, et alors personne n'a le droit de nous engueuler, c'est formidable.
Maryse, vous qui êtes une pro de la radio, on n'a pas l'impression que tout ça a été très construit au départ, c'était quand même assez improvisé.
Oui, on a l'impression que c'est improvisé. Pas du tout, on travaillait beaucoup. Il nous faisait arriver à midi au bureau. L'émission était à 16h30. Hein, moi, j'étais pas dans la première saison.
Oui, vous étiez dans la deuxième saison. Ouais. Vous êtes arrivé en 85 avec lui, oui.
Avec lui, moi j'étais au matin avec Philippe Gildas à l'époque. Voilà,
donc vous nous disiez qu'il bossait, c'est ça, il bossait ses émissions.
Oui, il bossait, on arrivait à midi jusqu'à 16h30 à l'émission, on bossait vraiment, Jean-Michel est là pour vous le dire.
Il confirme, il hoche la tête.
Je hoche la tête, c'est-à-dire qu'il y avait une revue.
On rigolait beaucoup matière, aussi, il faut dire. Mais quand même, on travaillait, c'est Jean-Mi qui lisait les unes des journaux et les fulgurances de Coluche arrivaient à ce moment-là. Moi, j'étais en admiration totale, quoi. Ces fulgurances qu'il avait pour trouver ce qui allait faire rire, le mot juste en plus, c'était fou, quoi.
Bon, en fait, c'était un bazar qui n'était pas tout improvisé.
Ça faisait un bazar parce que tout le monde passait. Ouais. Alors, il se faisait livrer ses caleçons en soie. Il se faisait livrer sur mesure. Très beaux caleçons en soie. Évidemment, pendant l'émission. Et il les essayait pendant les pubs.
Pendant les pubs, d'accord. Donc, il se mettait tout nu.
Moi, j'avais le dos tourné, donc je ne voyais rien. Mais voilà, donc ça faisait une ambiance déjà... comme il la souhaitait, quoi.
Bon. Heureusement que tu étais là, Maryse, parce que c'est toi qui...
j'ai fait ce que j'ai pu, j'avais mon poids de
les garçons
parce que...
un peu en main, là. Oui.
Vous savez quoi ? On va vous retrouver tous les quatre dans un tout petit instant pour poursuivre cette discussion. A tout de suite sur Europe 1.
Je voudrais faire une annonce personnelle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, français, françaises, vous qui écoutez Europe numéro 1 actuellement, ici, il fait chaud. On est très bien considéré et on est payé en plus. On vient pas pour. On est payé. Alors si vous pouviez rire, ça nous arrangerait. Merci.
Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui, un jour de 1978, s'est retrouvé derrière un micro bleu et qui a donné des cheveux blancs au patron d'Europe 1. On connaît tous le Coluche des Restos du Cœur. Eh bien, ceux qui étaient trop jeunes n'ont peut-être pas tous en tête cette histoire incroyable qu'il a eue avec Europe 1, une histoire intime. Et cette histoire intime, on en parle ce soir avec Maryse Gildas, bien sûr, avec Jean-Michel Vagelsi, Laurent Cabrol et François Jost, qui est spécialiste des médias. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la toute première émission de Coluche qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, donc en 1978, 24 avril. Il avait invité, me semble-t-il, ce jour-là, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell pour la première. Laurent Cabrol, il paraît qu'il avait un trac fou au tout début.
Bah, un trac fou, ça se voit jamais sur Coluche, un trac fou, hein, c'est pas vrai. Mais il avait, oui, il a, on sent une émotion, on le sent à sa bouche qui pince les lèvres. On sent qu'il va sortir quelque chose. Et puis après, ça, c'est venu à fond parce que c'était des copains aussi qui étaient là. Hein. Mais il invente, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il invente quand même une nouvelle radio. Oui, il y a eu la radio des speakers dans les années 50. Ensuite, il y a eu la radio Europe 1 qui est arrivée, qui pardon, on n'était plus speakers, on parlait normalement, on parlait comme des copains. Et puis après arrive Coluche qui, lui, est à l'avant-garde de la radio d'aujourd'hui, de la radio FM. C'est-à-dire qu'il parle comme la rue. Et d'un seul coup, tous ses copains aussi, même les Dutronc qui venaient là et qui avaient l'habitude de parler, disons, de manière assez avec plein de retenue, d'un seul coup, ils se lâchent aussi. Et c'est ça c'est un nouveau ton qui est instruit, qui est vraiment installé comme ça. Et Jean-Michel Vagelsi qui est là, c'était lui l'homme sérieux avec Maryse, c'était l'homme sérieux, c'est lui qui décidait de l'éditorial, de ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, les contacts avec les politiques et tout.
Ah
Jean-Michel
oui.
Vagelsi, il a eu un rôle énorme auprès de Coluche.
Racontez-nous, comme Maryse. Jean-Michel, racontez-nous.
Tu me diras combien je te dois. Hein.
Ah non,
Vous lui disiez vraiment, Jean-Michel Vagelsi, ça, faut éviter, ça, tu peux.
Non, pas, ça se passait pas comme ça, mais si vous voulez, c'était moi qui étais chargé d'aller fouiller dans l'actu pour trouver la matière à ce qui faisait rire. Donc je travaillais pas beaucoup, et puis ensuite je lui soumettais, et il validait ce qui lui paraissait correspondre à toute manière à l'esprit qu'il dégageait.
Il vous écoutait quand même?
Ah oui, bah bien sûr, oui.
Il n'aimait pas n'importe quoi. Hein.
Il n'aimait pas lire les journaux. Hein.
Voilà, Maryse, il n'aimait pas.
Rappelle Jean-Michel, il n'aimait pas lire les journaux.
Non, il n'aimait pas. Et puis bon, comme on se connaissait depuis tellement longtemps, en gros, il y avait une vraie confiance entre nous. Quoi.
Il y avait une vraie confiance aussi avec vous, Maryse.
Ah oui, je pense
ça
aussi,
s'entendait
évidemment.
À l'antenne. Hein.
Ah oui.
Oui, parce que moi, bon, il a tout de suite vu que j'étais cliente hein, depuis voilà, très,
ah oui,
très longtemps.
Fan, quoi. Oui, oui.
Oui, j'étais fan, bien sûr.
François,
il a été tellement formidable avec moi, vraiment, tellement gentil.
Il a eu le respect, ouais. respect.
Ah oui, puis le respect, voilà. Parce que, oui, il avait l'habitude, ce que je n'aimais pas, c'était les blagues scatologiques. Je lui avais dit, ça ne me plaît pas, ça me hérisse le poil, je ne supporte pas. Alors, il m'a dit, écoute ma poule, pas de problème, je vais t'acheter le pouet-pouet, dès que je déborde, eh ben, tu fais pouet-pouet. Et ben, le pouet-pouet, il a marché beaucoup, évidemment.
Ah ouais. Ah oui, j'imagine.
Bien sûr.
On pourrait plus faire.
Il suffit de dire ça à Coluche pour qu'il en rajoute.
Bah, j'imagine. On pourrait plus faire une émission comme ça aujourd'hui, François Jost.
Écoutez, je vais aller un petit peu à contre-courant de ce que vous dites. Je prends un risque énorme, mais il faut prendre des risques.
Ah oui.
Coluche a fait une émission qui était relativement nouvelle. Mais il faut quand même dire aux jeunes auditeurs qui n'ont pas connu la radio que jusqu'en 81, il y avait les radios nationales, un service public, et trois radios, dont oui. Europe 1, qui étaient des périphériques. À l'époque, beaucoup de jeunes radios, ce qu'on appelait les radios libres, se sont lancés, ont essayé de détruire le monopole. Notamment, il y a eu, en 79, la radio Riposte, qui était la radio du Parti Socialiste, qui a été interrompue, de Mitterrand parlait, il a été interrompu par la police et mis en examen. Hein, quelque chose comme ça.
Oui,
donc c'est dans ce contexte-là que Europe 1 a pris Coluche, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui avaient un ton très 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 différent. Il ne faut pas oublier notamment l'histoire de Carbone 14, qui est de 80...
Avec la fesse.
Et de la fesse, qui s'appelait à l'époque Lambert, je crois.
Bah, c'est
et
son nom, quoi. C'est Jean-Yves Lambert.
Voilà,
nom,
et il s'appelait la fesse, et puis il y avait aussi Gros Doigt, Sexe, ou
Il y avait Gros Sexe.
Oui, il y avait Super Nana.
Il y avait Super Nana, il y avait Gros Sexe.
Il y avait des radios qui avaient un ton extrêmement libre, même
mais ils avaient une écoute très restreinte en même temps.
Absolument.
C'est-à-dire que la domination, elle était sur les radios périphériques. En tout, je crois que si on ajoute RMC et Sud Radio qui existaient déjà, c'est quatre radios. Et le reste, c'était vraiment infinitésimal.
Et donc,
quoi.
Si vous voulez, à partir de 82, effectivement, le monopole de la radio et de la télévision ont été cassés. Et donc, Coluche a été, j'allais dire, possible. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, j'ai vu Coluche au Café de la Gare quand j'étais très jeune, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce type qui était, comment dire, un peu, on dirait gauchiste aujourd'hui, qui était quand même très, très, très engagé.
Vous diriez ça, Jean-Michel Vagelstein?
Non, je dirais pas ça. Mais en même temps, j'admets très bien que vous le disiez. Mais je pense pas que ça le définisse, si vous voulez.
Il y avait un côté post-68-art.
Il y avait un côté
très,
profondément
très
68-art, oui. Qui avait remis en cause, oui, le théâtre, la naissance du café, des cafés-théâtres, notamment avec un maître qui était Romain Bouteille, qui je crois est décédé il y a une quinzaine de jours. Mais si vous voulez, c'était pas vraiment un gauchisme militant.
Non,
non, mais
c'était 68-art.
C'était quand même, il y avait aussi, oui, le côté canular, il y avait aussi le côté libérer l'expression, si vous voulez. C'était pas du militantisme, c'était la libération de l'expression.
On pourra continuer notre discussion passionnante autour de Coluche. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe numéro 1. À tout de suite. C'est la suite de notre grand débat sur Europe 1 et ce soir on a décidé, 35 ans après sa disparition, de faire revivre Coluche. Parce qu'en ce moment on a bien besoin de prendre un peu de recul et on a besoin de sourire aussi. Et qui mieux que Coluche pour nous donner la pêche, slogan culte d'Europe 1 pendant des années. Cette radio sur laquelle il a fait ses premières armes de façon un peu chaotique, on a vu ça tout à l'heure. Coluche et Europe 1, on en parle avec sa comparse Maryse, avec Laurent Cabrol, avec Jean-Michel Vagelstein, son complice de toujours. Et avec François Jost qui est un grand spécialiste des médias. Alors je crois que c'est Laurent Cabrol qui nous disait ça tout à l'heure. Coluche aimait bien inviter ses copains dans ses émissions. Ils sont pratiquement tous passés sur Europe 1.
Il y a du tronc, les mecs. Ça va? On vient juste de passer ton disque. Oh, et Jean-Marie Perrier. Oh, il y a son pote. Prenez à boire, il y a à boire. Alors, de Vaver, il nous a fait un dix.
Non, moi, je veux parler de rien. Je suis très, très mauvaise humeur. J'ai horreur de participer à ce genre d'émission.
Oui.
Et les gens achèteront mon disque s'ils ont envie, mais je ne ferai absolument aucune publicité.
Dutron, Perrier, Patrick Dever, beaucoup de copains, hein, je disais, passés dans les émissions de Coluche. Laurent Cabrol, on a l'impression qu'en fait, il les invitait un peu pour se rassurer, mais que c'est lui qui parlait tout le temps, ou presque.
Hein. Oh, bon, de toute manière, on ne pouvait jamais en placer une. Hein.
Non, on ne pouvait pas en placer une.
Non, oui, c'est vrai que c'était... Mais c'est quand même un personnage fabuleux, si vous voulez. Même quand vous êtes à côté de lui, vous êtes déjà pris par le personnage en lui-même. Rien que sa bouille vous prend et vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien prononcer d'autre que d'écouter ce qui va vous sortir. Parce que dès que vous sortez quelque chose, boum. Ce que je voulais dire à cet instant de l'émission, c'est que si Coluche est à Europe 1, si Coluche a eu lancé les Restos du Cœur, si Coluche a fait tout ce qu'il a fait sur Europe 1, c'est grâce à un monsieur auquel on doit rendre hommage ce soir, c'est Philippe Gildas. Sans lui, Coluche n'aurait pas existé sur Europe 1. Sans lui, il n'y aurait pas eu les Restos du Cœur, j'en suis persuadé.
Bien sûr. Tout à fait vrai.
Et c'est pas Maryse qui dira le plus.
Ah oui, merci Laurent de le dire. Oui, merci.
C'est important. Parce que
j'aurais pu le dire aussi, mais je préfère que ce soit toi. C'est bien. Merci.
C'est important de rendre hommage ce soir aussi à Philippe Gildas.
Il faut effectivement rappeler qu'il avait une émission sur Canal+, aussi, Coluche.
Bien sûr. Oui, mais là, on fait le Coluche de la radio ce soir, si vous voulez bien, François Jost. Non, mais on peut en parler de la télé une autre fois. Ça nous ouvrira des horizons. Laurent Cabrol, ça arrivait souvent que pendant l'émission, tout ce beau monde boive des coups en studio. On a l'impression que parfois, ils n'étaient pas tous très sobres. Hein.
Ne dites pas ça à Canteloup, parce qu'il déjà il m'a massacré en disant que j'étais le buveur de la
maison. Non, mais je ne parlais pas de vous, je parlais des invités de Coluche.
Les invités, c'est pas l'alcool. Franchement, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'alcool. Il montait des bières ou d'autres choses.
Coluche ne buvait pas. Hein.
Mais il ne buvait pas. Non, il buvait
fumait
pas.
Des pétards.
Non, c'était les pétards.
Il fumait des pétards à l'antenne.
C'est la fumette.
À l'antenne, non, j'ai rarement vu. Mais je l'ai quand même vu fumer un pétard dans le bureau d'un ministre.
Ah oui.
Oui.
C'était pas des pétards, c'était des cônes.
On disait ça à l'époque.
C'est vrai qu'on appelait ça
des cônes ou des spliffs. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
Maryse, on a quand même l'impression que les studios d'Europe 1, à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup plus décontracté qu'aujourd'hui. Hein.
Ah là là, oui. Oh, c'était formidable. Ça passait, il y avait du passage, quoi. Pendant les pubs et même pendant le rouge, hein, ils s'en foutaient complètement.
Il a cassé les
rouge.
Pubs. Hein.
Ça rentrait, ça sortait. Oui. Donc j'avais du mal à maintenir un petit peu le sérieux de tout ça. Mais en même temps, écoutez, j'ai passé 9 mois avec cette émission et avec lui et avec l'équipe. C'est le meilleur de ma vie, quoi. J'ai ri pendant 9 mois. C'est quand même assez rare, ça.
C'est exceptionnel.
Bah après, on est partis en vacances
tous
ensemble après.
Ah oui.
Tu te souviens, Marie?
Oui, on est parti à l'île Maurice et ça a été génial. Et il a été. J'ai le temps de raconter cette petite anecdote.
Allez-y, bien sûr, Marisa.
Voilà, c'est un soir, donc ils viennent nous rejoindre, ils étaient à la Réunion, hein, et puis ils me disent, bon, bah, alors vous êtes à Maurice, tu viens nous voir à la Réunion. Je dis non, donc vous venez plutôt à Maurice. Il est arrivé avec l'équipe, et il a la suite à côté de nous, on était au Twist Rock, un bel hôtel là-bas à Maurice, et il y avait la suite à côté de nous, et la terrasse à côté. Oui. Et moi, il est 6h du soir, je viens de me laver les cheveux, la douche, j'ai les rouleaux sur la tête, allez, vous mettez des gros rouleaux. Il m'appelle, il sonne. Il me dit, bon, tu peux venir? Bah, j'ai dit, non, là, Michel, j'ai les rouleaux sur la tête, non, je suis pas visible, là, c'est, non, pas tout de suite. Tu viens, s'il te plaît. Démerde-toi. C'est comme ça. Donc, j'arrive avec mes rouleaux sur la tête. Il avait préparé sur la terrasse, champagne, petit four, les bons fauteuils, enfin, les lits de repos. Il me dit, mets-toi là. Et on a regardé, silence total.
Les étoiles, je parle.
Au bout d'un moment, c'était le coucher du soleil.
Et voilà, et à la fin,
voilà, c'était le fameux coucher du soleil. Il m'a dit, je pouvais pas le voir tout seul.
C'est beau.
Voilà, c'était
beau.
Lui, ça.
Et puis,
aussi.
C'était une preuve aussi de l'amitié qu'il vous portait et qu'il portait
à
ses équipes.
Oui, je crois qu'on s'aimait bien tous les deux. Oui,
il avait une tendresse absolue, ce garçon. C'est vraiment un homme très attachant.
Tendre.
Et quand on allait chez lui, moi je ne suis pas allé souvent, mais quand on allait chez lui, il y avait une grande table et puis il y avait un panier. On soulevait le couvercle du panier, il y avait des billets de banque.
des billets de 500 francs.
Si on avait besoin d'argent,
on servait. Oui, c'était une grande boîte en fer. Je me souviens, j'avais été regardée dedans, moi.
Vous êtes sûr,
j'avais dit à Ludo,
dire,
qu'est-ce que c'est que ça? C'était des boîtes de banania, les grandes boîtes de pub. Et je dis, mais qu'est-ce que ça fait là au pied de l'escalier? Il m'a dit, va voir. Et c'était des billets de 500 francs. À l'époque, on est en francs. Mais toute la boîte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est comme ça. Les gens les copains qui viennent et qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas besoin de demander. Tu comprends?
Ouais, c'est voilà. Pour les copains. Il a toujours été incroyablement généreux, Coluche, avant même son fameux appel pour la création des Restos du Cœur. Hein, c'était manifestement quelqu'un avec qui on aurait eu envie de travailler. Vous savez quoi? On va continuer à en parler dans une toute petite seconde sur Europe 1. À tout de suite. Et Coluche est avec nous ce soir dans ce studio d'Europe 1. Il est là dans la mémoire de ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé. C'est sans doute votre cas si vous êtes des auditeurs historiques d'Europe numéro 1. À la veille du 35e anniversaire de sa disparition, on avait envie ce soir de se souvenir de l'homme de radio. Parce qu'on connaît tous l'homme des Restos du Cœur, l'homme qui nous a fait rire ou pleurer parfois au cinéma. Mais on oublie que Coluche a également vécu une belle histoire avec Europe 1. On en parle toujours avec Maryse Gildas, Laurent Cabrol, Jean-Michel Vagelsi et François Jost. Et je crois que c'est vous, Laurent Cabrol, tout à l'heure qui nous disait que Coluche, il avait l'habitude de dézinguer des pubs en direct. Hein.
Ah oui, ça a été le premier à faire. Hein.
C'était très politiquement incorrect, ça.
Maryse s'arrachait les bouches qu'elle avait, mais c'est vrai qu'au milieu des pubs, ils arrêtaient, ils commentaient la pub, de temps en temps, mais alors ils prenaient des pubs à son avantage, à leur avantage, et puis ils ne parlaient que de ça.
Tu te souviens des chaussures Garamond?
Les chaussures Garamond.
Racontez-nous.
Les chaussures Garamond. Mais oui. Bien sûr,
c'est qu'on a reçu service comme chaussures de ski.
C'est quoi les chaussures Garamond? Je connais pas, moi.
Raconte.
Moi non plus.
Non, mais il avait pris des chaussures de ski. Le problème, c'est qu'il y en avait des paires, toujours de la même pointure. On était embêtés, on pouvait pas. Alors il les distribuait à ses copains. Mais en même temps, toutes les marques qui dézinguaient étaient des marques qui en redemandaient. Parce que les publicitaires avaient remarqué que si Coluche disait du mal de leur marque, c'était encore plus vendeur.
Même cette marque, cette enseigne alimentaire.
Les Garamond, bien sûr.
Il y a une enseigne alimentaire, il disait pour manger, c'est pas terrible, pour vomir, c'est formidable. Je pense qu'aujourd'hui, si on dit un quart de ça, on est viré dans la minute qui suit, hein, François Jost. Ça, c'est les choses qui peuvent plus se dire aujourd'hui à la radio.
Oui, non, je pense qu'effectivement, c'est impossible. Cela dit, c'est drôle parce que quand il a fait les Restos du Cœur, il a fait appel aux annonceurs d'abord. Hein.
Bien sûr. C'est-à-dire que le système, si je peux me permettre, le système des marques. D'abord, sa première annonce, c'est de dire s'il y a des marques qui ont envie de nous aider dans cette entreprise, elles sont les bienvenues et moi, je ferai de la pub pour eux. Bon, il a dit évidemment mieux que ça. Et c'est vrai que chaque fois... Alors ensuite, ils ont joué le jeu. Et au tout début des Restos du Cœur, il a pu initier le mouvement avant que le réseau se crée avec cette manière.
Oui, avec un raisonnement, j'allais dire, très raisonnable. Ce n'était pas du tout l'appel émotif de l'abbé Pierre. C'était plutôt, il y a des excédents, si on en faisait quelque
c'était
chose.
C'était politique, oui, bien sûr.
C'était vraiment une argumentaire pour le spectateur.
L'idée, c'était avoir des millions et des millions de tonnes de viande, d'excédents. De céréales dans les frigos de la communauté européenne à l'époque, alors qu'en France, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, pose un problème insupportable. pour des histoires de régulation de cours. Donc, ouais. C'était, si vous voulez, c'était une vision politique.
En tout cas, on a beaucoup dit combien Coluche était un garçon sympathique, adorable, un bon camarade. Ce qu'il faut rappeler aussi, quand même, c'est qu'il était loin de faire l'unanimité chez les politiques, notamment. Hein. Il était qualifié de populiste, de poujadiste. La gauche, en particulier, avait peur de lui parce qu'elle avait peur qu'il lui pique des voix. Il faut dire qu'il n'était pas très tendre. Écoutez, notamment, avec Georges Marchais.
Georges Marchais, il a quand même annoncé que s'il était élu, ce qui est déjà une plaisanterie, il trouverait 3 500 000 emplois nouveaux. Alors que comme il n'y a que 2 millions de chômeurs, il va falloir faire rentrer 1 500 000 arabes qu'il aura du boulot à virer avec son bulldozer après. Donc il y a quand même, une mascarade énorme. Là.
Ça, typiquement, Laurent Cabrol, même Nicolas Cantelou, il ne pourrait pas le dire. Hein.
Non, c'est vrai. Mais il le reconnaît lui-même. Il dit on est en pleine régression par rapport à la liberté de parole. C'est incroyable. Hein. Mais c'est vrai que lui, il pouvait tout se permettre. Et il le disait au deuxième degré. Tout le monde, beaucoup le prenaient au premier degré, mais il le disait bien sûr au second degré, parce que c'était l'ami de tous les... Moi, je me souviens quand on est allé visiter le premier Resto du Cœur à Gennevilliers, et je suis parti avec lui, avec sa voiture rose, là, décapotable. Il pleuvait, d'ailleurs. On a réussi à mettre la capote le dernier moment, puis on s'est arrêté à la prise génique, il est descendu, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là. Il me dit attends, bouge pas. Il a pris un grand carton, il a raflé tout le rayon de jouets, il a tout mis dans le carton, et puis il a mis dans sa voiture, il dit tu sais là-bas il y aura peut-être des pauvres, je vais leur donner. Voilà, c'était ça Coluche, et on est arrivé à Gennevilliers, il a distribué les jouets à tous les mômes qui étaient là, c'était Noël quoi.
Oui, Maryse.
Oui. Ah ben oui, c'était vraiment formidable. Moi, je vous dis, j'ai passé des après-midi avec eux. Je me souviendrai longtemps de cette émission. Ça a été un bonheur pour moi. Quoi.
Alors vous, ce qui est marrant, vous aviez, pour ce, Jean-Michel Vagelsi, oui.
Sur ce premier jour des restos dont parle Laurent, en fait, on était plus nombreux que les gens qui venaient. Parce qu'au début, les gens n'y ont pas cru.
Ah oui, oui.
Ils n'ont pas cru que c'était possible. Et il s'avère qu'il y avait une marque, justement, qui nous avait envoyé une palette de foie gras. Et les gens qui venaient pour manger, qui avaient faim, foie gras, bon, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient de religion où on ne mange pas de porc, ils avaient peur qu'il y ait du porc dedans. Et on s'est retrouvés avec la palette de foie gras que personne n'a voulu. Ce qui fait qu'à 11h du soir, toute la bande, on s'est pris le pain qu'il y avait et on s'est fait des sandwichs au foie gras. C'est le premier jour.
Mais vous savez,
Laurent Cabrol,
je vais vous faire une confidence.
Dites.
Franchement, ce jour-là, lorsque je suis allé avec lui à Gennevilliers, je vais vous dire un truc, il n'y croyait pas trop. On n'était pas nombreux à y croire. T'es d'accord,
c'est vrai,
Michel, hein.
Ouais, ah bah, c'est je suis vrai. Tout à fait d'accord. Ouais. Tu te rappelles, ça a mis à peu près une semaine à ce que le bouche à oreille fasse que les gens se rendent compte que c'était pas du bidon, que c'était pas de la pub, que c'était authentique. Ouais. Et, c'est monté en flèche pendant une semaine, il y a même eu des médias qui disaient ça marchera pas, etc. Puis il y avait, attends, rappelle-toi, il y avait aussi une partie de la presse qui a attaqué l'initiative.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ah oui, pourquoi? Parce que Coluche,
il y a eu toute une histoire, il y a eu un incident dont je ne reviendrai pas dessus, mais Coluche veut se faire de la pub sur le dos des pauvres. C'était ça, le premier regard d'une partie des médias.
Comme c'est marrant, tout le monde pensait que c'était une opération de grand humour.
Mais... Oui, et puis tout le monde savait qu'il devait se refaire une image après cette année en Guadeloupe tellement difficile pour lui. Ouais. Voilà, il fallait que je l'appelle Mimi le plus gentil. Donc c'est pour ça que la presse a dit à ce moment-là, oui, il veut se refaire une image, les Restos du Cœur, c'est pour ça, etc. Quoi. Bien sûr que oui.
Alors, ce qui est incroyable, c'est...
Mais vous savez, il disait, je suis capable du pire et du meilleur, mais dans le pire, c'est moi le meilleur.
Pas mal comme expression.
Tout à fait.
Ce qui est incroyable, c'est que Coluche, aujourd'hui, il fait toujours référence, hein, y compris chez les plus jeunes qui l'ont pourtant vu que sur YouTube. Hein. C'est assez fou, ça, François Josse, quand même. Hein. Il a même un temps été revendiqué par les Gilets jaunes. Il a vraiment laissé une empreinte.
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Et il faut dire aussi que grâce à YouTube, on peut retrouver toutes ces images, mais y compris des images d'Europe 1 d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que ça se perpétue, parce que sinon, si c'était juste un souvenir des parents, si vous voulez, ça ne marcherait pas. Mais on peut y accéder directement maintenant. Et c'est effectivement ce qui donne une pérennité à Coluche.
Eh bien, merci beaucoup. Merci vraiment à tous les quatre. On va devoir s'arrêter là.
Ce
déjà,
fut un plaisir.
Malheureusement. Mais on regrette de ne pas avoir vécu dans ce Coluche, dans cet Europe 1 à l'époque de Coluche plutôt. Merci à tous les quatre. Maryse, Laurent Cabrol, Jean-Michel Vagelsi, François Jost, d'avoir fait revivre Coluche le temps d'un instant dans ces studios qui ne sont pas les mêmes, hein, puisqu'on a déménagé depuis.
Non.
Mais où il est quand même encore.
Mais il y a son parfum quand même.
C'est ça, il y a son parfum.
Oui. Il est quand même là, oui.
Ouais.
Il est présent. Merci. Merci à tous les quatre.
Allez, c'est fini, on ferme. Circulez, il n'y a rien à voir.
Voilà.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, ce sera le rappel de l'actu, comme tous les soirs à 20h. Et puis, bien sûr, place au foot. Bonsoir Lionel Rosso, vous êtes là.
Bonsoir Isabelle, absolument, bien sûr. Toute l'équipe
comme tous
est là.
Les soirs.
Nous sommes prêts.
C'est quoi votre programme ce
Joli
soir.
Programme. Alors, déjà, énorme match à partir de 21h à suivre en intégralité sur Europe 1. Angleterre-Écosse.
Oui,
Angleterre-Écosse, Isabelle, c'est plus qu'un match de football à Wembley. Et évidemment, on vivra cette rencontre. Et puis, nos invités, nos grands débats. Nous serons avec Haroun, humoriste, qui est en spectacle à partir du mois de juin. Là, c'est complet, mais en septembre également. Et puis, nos experts. Le réalisateur Fabien Anteniente, Aline Riera, Javier Prieto Santos, Marc Libra également. On va évoquer évidemment l'équipe de France, la journée des Bleus avec nos envoyés spéciaux, Jean-François Pérez à Budapest, puisque nous sommes à la veille du grand match contre la Hongrie. Ce sera demain à partir de 14h. 15h le coup d'envoi, mais nous sommes à l'antenne à partir de 14h, après-midi et soir. Voilà, on vous propose une version d'Europe 1 Football Club pour tout savoir et ne rien louper du match des Bleus et de 7 euros. Mais ce soir, place à l'Angleterre et place à l'Écosse.
Bon, moi j'ai déjà préparé mon maillot de l'équipe de France. Merci Lionel, très très belle émission à vous, très belle soirée. Lundi dès 18h, vous retrouverez bien sûr Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer.